Europe 1, en balade avec Nathalie Reims. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est la romancière Nathalie Reims qui nous emmène en balade avec elle aujourd'hui. La Comédie Française, l'Académie Française, l'Hôpital Necker, autant d'endroits qui ont beaucoup compté dans sa vie. Vous allez voir pourquoi. Avant d'écrire 20 livres, le dernier « Les reins et les cœurs » vient de paraître chez Léo Cher. Nathalie Reims a été comédienne, chanteuse, journaliste à elle, productrice de télévision, productrice de cinéma. Elle nous a donné rendez-vous place Colette devant la Comédie Française.
Frédéric Taddeï, en balade avec Nathalie Reims sur Europe 1.
Bonjour Nathalie Reims.
Bonjour Frédéric.
Vous nous avez donné rendez-vous place Colette devant la Comédie Française. C'est sur cette place que se trouve l'une des plus jolies bouches de métro de Paris, hein, le kiosque des Noctambules, qui a été dessiné par l'artiste plasticien Jean-Michel Le Toniel. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette place ?
Ben, ça m'évoque beaucoup de souvenirs, des souvenirs d'enfance, enfin de préadolescence en fait, parce que quand j'avais 13 ans, en vacances en Corse avec mes parents, a débarqué un jour la chanteuse Dalida, en fait, accompagnée d'un très grand ami à elle qui était sociétaire de la Comédie Française et dont je suis tombée amoureuse. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire qu'à 13 ans, on peut tomber amoureuse d'un homme de bien plus de 40 ans. Je crois qu'il avait 44 ans à l'époque. Et ça a donné lieu des années plus tard à un livre.
Place Colette.
Place Colette, où je raconte ce premier amour et la façon dont on est capable par amour et sans s'apercevoir de l'âge de prendre des risques et de courir. Donc cette Comédie Française, je la connais à double titre en fait. Je la connais parce que je l'ai hantée, j'ai hanté sa salle, surtout au poulailler, parce que je venais tellement tous les soirs pour le voir jouer. Mais que c'était
sur vous n'aviez pas un abonnement
poche,
des les matinées classiques ?
Non, j'avais pas un abonnement des matinées classiques, figurez-vous, et que j'avais même suivi les travaux à l'époque de la Comédie Française.
Il y avait déjà des travaux. Parce
non,
qu'il
non,
en
il s'était
encore,
installé, je... il s'était installé aux Tuileries, voilà. Et donc ça, c'est toute cette période.
Alors je me souviens très bien quand vous avez publié ce roman, enfin un roman entre guillemets, hein, Place
Oui,
Colette.
Mais enfin, si vous voulez, les romans, c'est toujours la discussion. On en parlera peut-être plus tard dans la promenade, mais qu'est-ce qu'il y a de vérité et de romanesque ? À partir du moment où on écrit, c'est forcément romanesque. Et quand on puise dans ses souvenirs anciens, il y a évidemment de la vérité. Puis après, il y a les souvenirs induits. Il y a l'écriture qui, elle-même, au fond, est une forme de roman à partir du moment où on saisit un stylo pour écrire ou un ordinateur, peu importe. Tout devient du roman.
Mais alors, je me souviens, quand était paru ce livre, vous étiez venu en parler dans le Social Club que j'animais sur Europe 1 à l'époque, et je vous avais dit, vous aviez écrit ce livre alors que cet homme n'était plus là, bien
entendu.
Ah mais
je l'aurais jamais fait avant.
Et on ne savait pas qui c'était, bien que des noms aient circulé après la parution de ce livre. Mais surtout, ce qui était frappant, c'est que c'est pas seulement une histoire d'amour, vous avez été sa maîtresse quand vous aviez 13 ans.
Alors je vais me réattirer les foudres de... Non, alors...
Vous savez... Non, mais je vais dire par là que la même histoire aujourd'hui...
C'est assez impossible.
C'est dingue.
Il serait politiquement correct de vous dire que peut-être j'ai été en fait tout à fait manipulée par lui, ce qu'aujourd'hui je ne pense pas. Je sais que c'est scandaleux.
Non, vous disiez en plus que c'était vous qui vous étiez quasiment jeté dans ses bras.
Voilà, j'avais 13 ans et ça a pris un bon moment.
Aujourd'hui, on le taxerait de violeur et de pédophile.
Oui, on le taxerait de violeur et de pédophile, certainement à raison, mais il se trouve que. Est-ce que j'ose dire que j'étais consentante ? Oui, je crois que j'étais consentante. Je crois que j'étais déjà très constituée par la vie que j'avais eue. Mais déjà, le roman à 5 ans... Mais c'est fou ce qui s'est passé en 5 ans. Et évidemment, à juste titre, est-ce qu'on peut être consentant adolescent ? C'est possible. En tout cas, moi, je l'étais. Et il venait donc, après dîner, dans ma chambre. Il disait, je vais dire bonsoir à Nathalie. Et puis, il me disait bonsoir. Et c'était tellement... secret, tellement... Enfin, c'était tellement dangereux, en fait, que ce soit surtout pour lui. Mais oui. J'ai dit à mes parents, des années plus tard, puisque de toute façon, ni mon père ni ma mère n'auront pu lire Place Colette parce qu'ils ne sont plus là. Bah, écoutez, ma mère a dit « Quel salopard !» Ce qui était une bonne réponse. Et mon père, pas grand-chose. Donc, vous savez, c'était, je sais pas, peut-être un autre monde, peut-être une autre période...
En tout cas, c'est ce qui vous a donné le virus du théâtre
à
l'époque.
Alors, cet amour fou pour cet homme me fait rentrer évidemment dans les grands textes classiques. Je me souviens que mes copines allaient voir Julien Clerc et Joe Dassin, et moi j'entais les couloirs à la découverte de Molière, Marivaux, Racine.
Racine dont on voit,
le portrait d'ailleurs
sculpté et, sur le mur, voilà, à côté de celui de Victor Hugo,
qui va devenir après bien des années avec Molière vraiment mes deux auteurs de mes dieux, quoi, mes auteurs de référence. Et ça va m'amener à rentrer au cours Périmonie à 15 ans.
Oui, qui était difficile à l'époque, il y avait un concours.
Il y avait un concours, alors j'y suis pendant un an et puis je me prends de passion pour lui, et d'ailleurs et lui pour moi, mais une passion tout à fait professionnelle. Je suis dans la même classe à ce moment-là que Jean-Pierre Bacri.
Il était comment Jean-Pierre Bacri à ce moment-là ?
Beau et adorable comme il est toujours d'ailleurs. Merveilleux, toutes les filles en étaient absolument folles. J'étais avec Carole Bouquet et j'étais avec François Cluzet. Enfin, c'était toute une bande absolument formidable.
Comment était-il, Cluzet, lui, au début de sa carrière ?
Extrêmement sympa, comme aujourd'hui. Vous savez, je crois que j'aime beaucoup dire que quand on se connaît petit, les choses sont plus faciles parce que les rapports sont réels depuis le
début.
Voilà, non, c'était une ambiance formidable. Jean Périmonie était un immense professeur de théâtre et je suis tellement heureuse d'avoir pu lui envoyer Place Colette qui lui rendait hommage avant qu'il ne disparaisse il y a 2 ans.
On va continuer notre tour de la Comédie Française avec Nathalie Reims. On arrive vers les fameuses colonnes de Buren. Ouais. On se retrouve dans un instant.
C'est aux abords du ministère de la Culture et de la Comédie Française, au milieu d'une cour bien connue à Paris avec ses célèbres colonnes, qu'on retrouve Frédéric Taddeï en balade avec Nathalie Reims.
Nous sommes avec Nathalie Reims dans la cour d'honneur du Palais Royal, là où se trouvent les deux plateaux, la célèbre sculpture de Daniel Buren. Ça a été le dernier grand scandale de l'art au XXe siècle, hein, en 1986, ouais. Ça a été une polémique
énorme,
insensée.
D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui continuent à trouver ça affreux.
Pas plus beaucoup, hein.
Non, plus beaucoup, mais je pense.
Les gens l'aiment bien.
Oui, parce qu'on s'habitue, mais je pense que.
On est devant le ministère de la Culture. À l'époque, c'était Jack Lang qui avait voulu remplacer le parking par les deux plateaux, et ça s'était très mal passé.
Oui, ça s'était très mal passé.
On voulait tout détruire.
Et c'est toujours là, comme quoi l'art triomphe toujours.
Oui, ça finit par s'arranger. Vous-même, vous avez continué votre carrière de comédienne,
oui.
Vous êtes entrée au conservatoire de...
Non, je suis rentrée à la Rue Blanche.
Alors
au bout d'un an chez Périmonie, les choses se passaient très bien. Et j'étais en première, vraiment qu'au son français, mais le reste, je ne fichais strictement rien. Je ne pensais qu'au théâtre. Et mon père me dit, si tu es à la Rue Blanche, tu peux t'arrêter. Comme quoi, on peut écrire 20 romans et pas avoir son bac, c'est mon cas. Mais donc, j'ai passé le concours d'entrée à la Rue Blanche, qui est costaud, hein, parce que je crois qu'il y a 700 ou 800 candidats qui se présentent par an, il y a 17 places. Et dans tout ça, dans une inconscience absolument totale.
Et sur le regard bienveillant de votre amant sociétaire de la Comédie Française.
Et oui, sous le regard bienveillant, il a toujours été extrêmement bienveillant. Moins bienveillant de Jean Périmonie, qui trouvait que j'étais beaucoup, beaucoup trop jeune pour me lancer dans une école comme ça supérieure et que j'avais encore trop de lacunes, mais j'ai eu la chance d'emporter le concours et surtout de faire la connaissance de celui aussi qui va prendre une place très importante dans ma vie et qui, bien des années après, je le comprendrai, va m'amener tout doucement à l'écriture, qui est Michel Favori, qui est aujourd'hui sociétaire de cette grande maison qu'on a sous les yeux.
La Comédie Française.
Voilà. Et qui, à l'époque, était professeur et comédien, qui n'était pas encore, lui, entré à la Comédie Française. Et c'est avec lui, vraiment, que je vais comprendre exactement ce que c'est que de jouer un texte, ce que c'est que la musique d'un texte.
Frédéric Taddeï se balade avec Nathalie Reims sur Europe 1.
Mais très jeune, vous vous êtes retrouvé, vous aviez quoi, 15 ans quand vous avez joué dans Tartuffe avec Roger Hanin, puis dans Volpone avec Jean Le Poulain, qui était la grande star de la comédie française à l'époque. Ben, vous avez fait une vraie carrière d'actrice.
Ah non, mais j'ai fait une vraie carrière d'actrice au théâtre.
Vous serez engagé par Georges Lavelli, si je me souviens bien, c'est le dernier rôle de Maria Cazares.
Voilà, où je joue Maria Cazares enfant, enfin jeune. C'est l'histoire de la grande Catherine de Roussy. C'est une pièce de Resvani. Et j'aurai cette chance-là de partager le plateau avec ce monstre sacré dont même mon inconscience à l'époque, tout ça me semble tout à fait normal. Et alors là, je découvre une femme. Alors là,
Maria Cazares.
Ah, si vous saviez, tellement sympathique, tellement aimante, tellement drôle.
Avec de tellement beaux yeux.
Elle riait tout le temps. Elle fumait. C'est là d'ailleurs où je me suis mis à fumer aussi. Elle fumait vraiment tout le temps et elle avait ce rire extraordinaire. Elle était merveilleuse avec tous les acteurs.
Vous avez lu depuis sa correspondance amoureuse avec Albert Camus ?
Évidemment, mais c'est vraiment
Ils
une
sont
femme.
Restés amants pendant des décennies.
Des décennies. C'est une femme exceptionnelle que
Sans
voilà.
Sans que personne le sache, me semble-t-il.
Ben, voyez comme quoi. Hein. Mais vous savez, quand on n'écrit pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester secrètes. Après, les écrivains racontent ce qu'ils ont envie de raconter. C'est leur choix.
Et c'est souvent le vôtre.
Et ben, c'est souvent le mien parce que je me dis que dans la forme d'écriture, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est d'alterner vraiment les fictions totalement imaginaires, encore que je pense qu'il y a toujours évidemment de soi dans tout ce qu'on écrit. Et puis, j'aime aucun mot qui ressemble à autofiction. Je préfère roman vrai déjà. Enfin, des grandes phases de ma petite vie comme ça, des choses qui ont énormément compté et qui m'amènent à ce désir d'écrire qui, avec les années, est devenu complètement essentiel, alors que j'ai démarré très tard.
Dernière question, puisqu'on va quitter la comédie française. Oui. Pourquoi avez-vous arrêté cette carrière d'actrice qui semblait si prometteuse?
Alors, j'ai arrêté cette carrière d'actrice parce que j'ai, en règle générale, dans ma personnalité profonde, et ça va se développer avec les années, une assez peu grande capacité sociale. C'est-à-dire que l'idée de... C'était pas l'esprit de troupe. Ça me plaisait beaucoup. Si j'avais pu intégrer une troupe, ça aurait été comme intégrer une famille. Mais d'être dans une forme de combat, d'être dans la lutte, je ne savais pas qu'encore cette passion du français, de la langue française, allait m'emmener à l'écriture, en fait. Mais je crois que c'était pas...
Vous ne vouliez pas courir les castings ?
Non. Non, je sais. Je ne voulais pas courir les castings. Et cette
trop
idée,
timide ?
Oui, trop timide, trop sauvage. Enfin, vous voyez, je suis quelqu'un qui ne sort pas du tout. Je ne sais pas. J'ai des gens essentiels dans ma vie. J'ai des gens qui comptent énormément. Mais les rapports comme ça, de passage où on dit qu'on ne se quittera pas, qu'on s'aimera toujours.
Et qu'on se quitte tout de suite.
Ça s'arrête, on se quitte tout de suite. Non, je ne sais pas. Et puis la compétition, alors... C'est paradoxal parce que la compétition, quand on sort un livre, surtout dans la rentrée littéraire, on l'a vu.
C'était votre cas, oui.
Vraiment. Mais en fait, ça peut se vivre de différentes façons. Alors que les castings ou la lutte, c'est quelque chose qui est différent.
Je vois que notre voiture nous attend. Je vous invite à y monter. On se retrouve à l'intérieur juste après ça.
Nathalie Reims vient de sortir un nouveau livre, Les reins et les cœurs, qui raconte sa lutte contre la maladie. Elle se confie à Frédéric Taddeï dans la suite de leur balade.
Nous sommes en voiture avec Nathalie Reims. Nous allons traverser la Seine, passer sur la rive gauche, en direction de l'Académie française. Nathalie Reims, vous venez de publier votre 20e livre.
Oui.
Les reins et les cœurs, c'est édité chez Léo Cher. Pour une fois, ça n'est pas un roman, non. C'est un récit. C'est quelque chose qui vous est arrivé presque juste après que vous soyez passé sur Europe 1, dans le Social Club que j'animais à l'époque.
C'est le lendemain.
Le lendemain.
C'est-à-dire, on s'est quitté, j'étais debout, en fait. Je sentais bien que ça n'allait pas.
Vous veniez de publier un roman.
Ma vie sans moi, tout simplement.
Un roman prémonitoire, en fait.
Oui, mais je pense que dans l'écriture, enfin depuis toujours, c'est ce que j'ai reconstitué avec le temps, surtout après une telle épreuve, c'est que tous les livres que j'ai pu écrire ou tous les romans que j'ai écrits m'ont emmené toujours dans des univers comme ça, très proches de la vie, de l'au-delà, de la recherche de l'autre, de l'absolue nécessité de conserver la mémoire des gens disparus. Enfin, j'ai entretenu avec... comme ça, avec la mort, un rapport très étroit dans l'écriture jusqu'à publier mon premier beau livre chez Michel Lafon sur le Père Lachaise, qui n'est pas donné à tout le monde d'écrire sur les cimetières, mais j'aimais tellement cet endroit.
Alors, c'est ça vrai vient... que la mort plane sur tous vos livres.
Voilà, la mort plane sur tous mes livres et aussi une forme de résurrection à chaque fois. Mais là, vraiment, on se quitte dans Social Club et le lendemain, plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire que il y a une espèce de bug généralisé.
Dans votre corps, hein, vous parlez.
Dans mon corps. Et aussi, ça va être très, très vite dans ma tête aussi. Je suis hospitalisée d'abord dans un premier temps aux urgences et puis ensuite en réanimation. Mes reins ont cessé de fonctionner. Et quand les reins cessent de fonctionner, tout l'organisme, en fait, cesse de fonctionner puisque on n'y pense pas. Les reins, c'est un peu la zone de l'inconscient. On se dit... J'ai mal aux reins, mais ça ne veut rien dire. On a mal au dos. Donc, à partir du moment où les reins s'arrêtent, je suis en insuffisance rénale terminale. Et tous les organes vitaux, évidemment.
En fait, on meurt empoisonné.
On meurt empoisonné par son propre sang. Et je vais rester presque 2 mois en réanimation.
Mais alors, ce qu'il y a, c'est ce que vous racontez dans ce livre, c'est qu'au fond, c'est une maladie génétique oui. qui frappe toutes les femmes de votre famille oui. depuis plusieurs générations. Votre mère oui. l'a eu, votre grand-mère, la sœur de votre grand-mère.
J'ai vu ma mère pendant 25 ans en dialyse. J'ai vu ma grand-mère en mourir, sa sœur en mourir. Je savais que Bettina Reims, ma sœur, était très, très, très
attentive. Elle faisait très attention,
elle a ses problèmes et elle me disait, elle était suivie par l'équipe qui a suivi absolument toutes les femmes de cette famille, et avec plusieurs professeurs qui se sont succédés, puisque en fait ça fait des générations que ce gène existe et qu'il frappe systématiquement les femmes. Et donc je lui disais, mais non, mais ça ne me concerne pas. J'étais vraiment dans un véritable déni.
Mais n'est-il pas lié au fait que vous l'avez dit souvent dans vos livres, vous avez toujours eu l'impression de ne pas appartenir à cette famille. Là, vous avez bien eu la preuve que ce n'était pas le cas.
Voilà.
Alors, vous en faites bien partie.
Mais oui, alors c'est le constat que je fais évidemment à un moment dans le récit, c'est que j'appartiens bien à cette famille. Mais je ne sais pas, peut-être parce que je me suis toujours... Je n'ai jamais eu de rébellion. J'ai toujours été absolument aimante avec les gens de cette famille que j'aime et qui sont profondément des gens... extraordinaire, mais je ne sais pas, peut-être que mon côté sauvage, asocial, un peu différent, et aussi l'adolescence et la vie de jeune fille que j'ai eue, que j'ai choisi cette forme de liberté, d'indépendance au début de ma vie, le fait de venir de là d'où je viens, de la famille d'où je viens, était pour moi à la fois une extraordinaire source de magie, de culture et d'enseignement. J'ai eu énormément de chance. Mais je voulais aussi tracer ma route et prendre cette indépendance et finalement, au fond, me raconter que peut-être, mais c'est aussi peut-être pour échapper à la crainte de ce gène avec lequel j'avais grandi avec cette mère dans la chambre à côté, dans une machine de dialyse un jour sur deux. Peut-être que c'est aussi pour, en effet, rentrer encore plus dès le départ dans une histoire de déni et me dire que ça ne pourrait pas m'arriver.
Vous parlez de la dialyse, d'ailleurs, vous dites que c'est la préhistoire du transhumanisme. Vous avez raison.
Mais c'est vrai.
On est relié à cette machine parce qu'il s'agit d'un rein artificiel.
Oui, c'est vrai, parce que en remontant dans l'écriture, évidemment, quand j'ai commencé 3-4 mois après la greffe, puisqu'on va aller dans ce récit jusqu'au don d'organes, et ce don est miraculeux, je vais me pencher évidemment encore plus sur ce passé, sur... les ancêtres féminines de ma famille. Je vais tomber sur 2 sœurs qui portent exactement le même prénom que ma grand-mère et sa sœur à la fin du 19e siècle, qui meurent la même année, parce que la caractéristique, c'est que les femmes, quand elles sont sœurs, meurent toujours, toujours la même année. Même si elles ne tombent pas malades en même temps, elles meurent la même année.
Dans votre famille?
Très jeune, dans ma famille. Mais ouais. De toute façon, ce gène orphelin qui a une si grande famille n'appartient à personne d'autre. Et j'allais dire sans doute Dieu merci, puisque depuis le professeur Amburger, avec toutes les recherches qu'il y a eu, en passant par le professeur Grunfeld, le professeur Joly, à Necker, personne ne connaît la nature de ce gène.
Et il est uniquement dans votre famille.
Uniquement. C'est un gène XX, c'est-à-dire c'est un double X qui ne peut se passer que des femmes aux filles et que des filles à leurs propres filles. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un homme Par exemple, ma mère a un frère qui, Dieu merci, est toujours en vie. Lui est totalement protégé du gène et vraisemblablement aussi ses enfants, puisque le gène est uniquement maternel.
Vous le disiez tout à l'heure, Nathalie Reims, c'est à Dalida que vous devez votre première histoire d'amour, puisque c'est
oui.
à son bras qui est apparu chez vos parents un soir, ce beau sociétaire de la Comédie Française dont vous êtes tombée amoureuse, vous nous le racontiez tout à l'heure, vous l'avez raconté dans votre roman Place Colette. Écoutons Dalida qui chante « Par ».
Europe 1, 11h30, en balade avec Nathalie Reims.
Par et son même regard, laisse éteindre ton feu de misère et va-t'en.
C'était Par, interprété par Dalida. Quel effet vous avait-elle fait, Dalida, ce jour-là, chez vos parents ?
Incroyable. Elle était d'une beauté. Elle n'était pas du tout maquillée. Elle était tout en blanc. Et c'est surtout sa beauté, ses yeux, sa voix et sa magie, puisqu'elle avait déjeuné ce jour-là avec nous. Et la toute jeune fille que j'étais avait vu ça comme une déesse. Mais elle était vraiment d'une beauté, d'une sensibilité. Et puis c'est une immense chanteuse, enfin c'est une artiste que j'adore. Et surtout, elle était là sans artifice et c'était beau.
Je vous donne rendez-vous devant l'Académie française avec Nathalie Reims. Nous y serons dans quelques minutes.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï part en balade dans les rues de Paris avec la productrice et écrivaine Nathalie Reims. Et cette famille, l'envie d'écrire, son papa Maurice Reims était même membre de l'Académie française. C'est donc tout naturellement devant cette institution qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Nathalie Reims.
Et voilà l'Académie française qui se dresse devant nous, Nathalie Reims. Oui. Un bâtiment, alors vous ne l'avez pas hanté celui-ci, mais c'est...
Ah, il y a mes personnages qui l'ont hanté.
Un de vos personnages l'a hanté. Oui. C'était dans le livre...
Le fantôme du fauteuil 32.
Voilà, le fauteuil 32 était celui que votre père, Maurice Reims, occupait à l'Académie française.
Il l'occupait, il a mis longtemps à y arriver, mais il a fini par l'occuper. Nous en parlerons tout à l'heure, suivi cette espèce de campagne qui l'a menée jusqu'au fauteuil 32. Et évidemment, j'ai écrit ensuite ce fantôme du fauteuil 32 pour raconter non seulement le parcours de, un peu le parcours de Maurice Reims pour arriver jusque-là, mais surtout les péripéties qui ont suivi sa disparition et qui font qu'à mon avis, jusqu'à maintenant, personne ne reste très longtemps sur ce fauteuil.
D'ailleurs, il est inoccupé depuis le décès de François Weyergans.
Alors, il s'est beaucoup sur la campagne de François Weyergans, le fantôme du fauteuil 32.
Il y avait eu Alain Robbe-Grillé juste avant.
Voilà, il y avait eu Alain Robbe-Grillé.
Mais qui, lui, est décédé...
assez rapidement. Et ensuite, il y avait donc François Weyergans et toute cette campagne absolument délirante qu'il avait organisée avec Jean-Luc Delarue pour accéder jusqu'à cette merveilleuse institution. Ensuite, je pense que lui-même a déjà été un fantôme de son vivant. Je crois qu'on ne le voyait pas extrêmement souvent. Et ensuite, le pauvre, très grand écrivain, mais le pauvre ensuite est mort il n'y a pas longtemps. Donc le fauteuil est vide. Et je pense que Maurice... je ne sais pas, c'est son fauteuil et je n'ai pas l'impression...
Vous aimez bien penser que c'est le sien.
Mais oui, je crois.
Il y a eu Alfred de Vigny quand même avant.
Ah non, mais je parle depuis Maurice.
Depuis Maurice.
Ah non, je ne dis pas qu'il a tué, qu'il a hanté mortem les gens qui ont occupé le fauteuil 32. Non, alors le personnage du fantôme du fauteuil 32, c'est une sorte de fantomètre, enfin je crois que c'est un peu moi,
oui,
qui rentre la nuit, un soir, dans cette académie magnifique.
On ne pourra pas le faire parce qu'on est de jour. Là, on va rester devant.
Oui, oui. Et puis, on n'a pas demandé un passe. On n'est pas rentré. Et qui va retrouver son père.
Il a compté beaucoup pour vous. Hein.
Oh, énormément. Oh,
vous l'aimez énormément.
Ah, je l'aime tellement. Si vous saviez à quel point il a compté. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme extrêmement curieux. Lui aussi, alors lui, il avait fait pire que moi puisqu'il avait arrêté ses études avant le certificat d'études.
Il est devenu commissaire-priseur,
oui,
très grand commissaire-priseur.
Au départ, il débarrassait surtout son père, qui était général, qui était le général Léon Reims, qui avait été aide de camp du capitaine Dreyfus.
Fut un des, si je me souviens bien, un des rares à dire que la ligne Maginot, ça servait à rien.
Voilà, ça servait à rien.
Il était polytechnicien.
Sa tombe est au Père Lachaise, de toute façon. Et en fait, il était désespéré de voir ce fils, ce cancre, absolument tout raté. Et il l'a foutu chez un ami qui était notaire à l'époque pour débarrasser des panières dans les successions. Donc, il remplissait des panières, il notait les choses.
On profite que le feu est au rouge, on va traverser
sur le pont des Arts.
Et aller sur le pont des Arts.
Et c'est comme ça que petit à petit... Alors, tout était possible aussi. C'est toujours pareil. Les époques changent énormément. Il disait toujours que cette carrière, aujourd'hui, il n'aurait pas pu la faire. Mais sa curiosité, sa force l'ont mené d'abord comme clerc. Et puis ensuite, il a pu monter son étude, devenir le commissaire-priseur qu'il est devenu, c'est-à-dire celui qui a ouvert vraiment les lettres de noblesse à ce métier de commissaire-priseur.
Puis c'était un grand collectionneur aussi.
Et un grand collectionneur. Et oui, parce qu'il a quand même fait la Dacian Picasso pendant 7 ans. Il s'est occupé de la succession Picasso, la succession Bonnard, enfin. Et puis, c'était surtout un homme extrêmement libre, fou aussi. Alors, on va revisiter toute mon œuvre, je mets mon œuvre entre guillemets. Il y a les fleurs du silence qui lui sont consacrées. Il fallait avoir les clés. C'est toujours pareil, mais je pense que les gens exceptionnels, il faut avoir les clés pour communiquer avec eux, parce que souvent, c'est compliqué. C'est des personnages très, comme ça, très chronophages, très étranges. Il avait un goût pour les femmes aussi bien que pour les objets. Mais
vous racontez qu'il vous avait dit un jour, j'ai couché avec toutes les amies de ta mère, sauf une.
Et je lui ai dit, mais pourquoi pas elle ? Il m'a répondu, parce qu'elle est moche. Vous voyez, mais ne serait-ce que dire quelque chose aujourd'hui comme ça, est-ce que c'est possible ? C'est drôle.
Alors, il faut, pour que les choses soient égalité, il faut dire que votre mère elle-même avait comme amant, je crois, votre pédopsychiatre.
Oui, oh là là, alors là, nous avons le chemin des sortilèges qui raconte tout ça. Non, mais voilà, de tout ça, j'ai fait des livres. Alors, au fond, si vous voulez, il y a deux solutions dans la vie. Soit on a des parents complètement atypiques. On aurait pu penser que ce père absent est très peu là. Je veux dire, on peut soit décider de se droguer, de foutre sa vie en l'air et celle des autres, soit on décide de créer quelque chose et d'en faire des choses.
Vous n'êtes jamais drogué, vous, hein ?
Ah non. Ah non, j'ai connu trop de gens autour de moi qui... C'est terrible. Non, pas du tout. Je ne me suis jamais droguée, à part à la cigarette que j'ai arrêtée avec la maladie et la grève.
Je me souviens d'ailleurs que quand vous étiez dans le studio d'Europe 1 pour la sortie de... La vie sans moi, vous aviez dit lors de cette émission, juste avant que votre maladie se déclare, vous aviez dit, vous rendez compte que j'ai jamais tiré sur un joint, il faudrait que je m'y mette.
Voilà, il faudrait que je m'y mette. Alors écoutez, je me suis mis à autre chose. Je me suis mis à l'eau, hein, oui. À l'eau des viandes. Cela dit, j'avais jamais bu d'alcool non plus. Mais l'écriture
comme
est
quoi,
une ivresse.
Ça ne paye pas, hein, d'avoir ni fumé, ni bu, ben, ni s'être drogué. On oui, peut tomber malade quand même.
On peut tomber malade, mais on peut aussi écrire, ce qui est assez étrange parce que. On pourrait penser que pour écrire, il y a beaucoup de gens, sans doute, qui boivent, qui se droguent, je sais. Moi, si vous voulez, j'ai quelque chose en moi, comme ça, qui fait que l'écriture est ma cigarette, est ma drogue, est ma force.
On fait une pause et on reprend notre promenade avec Nathalie Reims.
C'est en plein centre de Paris, sur le Pont des Arts, un monument historique de la capitale, reliant le 6e arrondissement au 1er, que Frédéric Taddeï et Nathalie Reims ont décidé de continuer leur balade ce dimanche.
Nous sommes actuellement dans l'un des plus beaux endroits de Paris, hein, oui. Sur le Pont des Arts, qui se dresse, ou plutôt qui s'allonge entre le Louvre et l'Académie française. Oui. On a face à nous le Square du Vert-Galant, c'est la pointe de l'île de la cité.
Les bateaux-mouches.
Les bateaux-mouches qui passent. Il y a un beau soleil. Il y a des gens qui se prennent en photo. Et puis, il y a l'Académie française. C'est elle que nous sommes venus voir, Nathalie Reims. Oui.
Elle est belle.
Elle est très belle. Et je pense à tous les dîners ou déjeuners que vous avez dû passer enfant avec tous ces académiciens qui fréquentaient votre père.
Oui, mais à partir du moment où mon père a décidé, après avoir commencé à écrire, de se lancer à l'assaut de cet institut, évidemment, se sont organisés, notamment tous les dimanches soirs, des dîners chez lui où se côtoyaient.
Il faisait campagne, au fond. Hein.
Oui, il faisait campagne. Il faut faire campagne, je crois. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais là aussi, c'était une époque où les gens sortaient, les gens faisaient ces dîners. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu la chance de connaître extrêmement bien Paul Morand, qui venait aussi en vacances.
Paul Morand, l'auteur de L'Homme pressé,
de L'Homme pressé,
Irène.
Qui est devenu une sorte de, en fait, de parrain.
C'était déjà un très vieux monsieur.
C'était déjà un très vieux monsieur, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, enfin, tout ça était très paradoxal, parce que quand on lit le journal de Morand, on peut se dire que ça aurait été complexe, malgré l'immense écrivain qu'il était, de prendre comme ça, comme un espèce de fils adoptif, un bon juif, hein, il faut dire la vérité, puisque Maurice, je crois, alors je ne vais pas dire une erreur, je ne sais pas si Claude Lévi-Strauss était là avant ou après lui, mais enfin, il n'était pas totalement de bon ton, d'abord d'être de gauche, alors ça s'est arrangé évidemment bien après, mais surtout d'être juif, c'était c'était pas quelque
Paul
chose.
Paul Morand lui-même avait la réputation d'avoir été un peu antisémite.
Il suffisait de faire son journal. Ah ben, Alain de Morand, c'était terrible. Non, mais tout était écrit dans ce journal de Morand. Donc en fait, il est devenu comme ça une espèce de guide pour mon père et son rentrée dans sa vie ensuite. Alors pas vraiment des gens de gauche non plus. Il y a eu Michel Mort, il y a eu Félicien Marceau, Michel Déon.
Enfin, Maurice Genevoix aussi, vous l'avez bien connu, je crois.
Je l'ai tellement aimé, si vous saviez. C'était un homme extraordinaire, magnifique. Et quand, enfin, je pense énormément à lui. Et je suis passionnée par, évidemment, la guerre 14-18 et par tous ces films magnifiques qui a eu lieu.
C'est bien qu'il avait fait, hein.
Qu'il avait fait vraiment.
Et qu'il avait raconté.
En héros et c'était un homme.
Tous,
et
puis, ces, tous ouais. ces vieux messieurs au milieu desquels vous avez grandi, est-ce que ça ne vous a pas empêcher d'écrire d'une certaine manière?
Oui, bien sûr.
Parce que quand c'est une jeune fille et qu'on voit que des écrivains sont des vieux monsieur avec des habits d'académicien, ça n'encourage pas à se mettre à son bureau et à raconter sa vie.
Oui, mais surtout c'est drôle parce que c'était aussi une époque où les filles étaient très peu nombreuses. Là, par exemple, je vois dans cette rentrée littéraire, finalement, au fond, on a l'impression, et ça c'est formidable, que les filles écrasent un peu tout. Et il y avait très peu de filles qui écrivaient. Et puis j'avais tellement... À cette époque, je n'y pensais pas du tout. Ça me semblait complètement sacrilège. Et quand je vais écrire mon premier texte en 1999, qui s'appelle « L'un pour l'autre ».
Oui, vous avez déjà 38, 39
ans. J'avais 39 ans.
39 ans.
Qui va vraiment m'ouvrir les portes de cette vie que j'ai eue d'écrivain avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mon père ne le saura que le jour où... J'ai un tout petit éditeur, enfin très prestigieux, mais tout petit, qui sont les éditions Galilée, qui font plutôt des sciences humaines et de la philo. Je vais lui dire, voilà, j'ai un éditeur. Il va lire le texte et il va juste me dire, ah ben c'est étrange.
Oui, au fond, on ne vous dit jamais que c'est bien.
Non, hein? Jamais.
Vos parents, votre famille, on ne dit pas que c'est bien.
Non, alors souvent ça me fait pleurer d'émotion, ça me fait venir les larmes aux yeux. Quand j'entends par exemple des parents qui sont tellement fiers de leurs enfants et qui leur disent, moi non, vraiment, il a été toujours extrêmement bienveillant, mais quand j'avais un livre qui sortait, il faisait un peu mine de pas trop savoir. Alors peut-être parce que je sais pas pourquoi. Pourtant, alors vraiment, je suis pas quelqu'un qui la ramène du tout, mais il lisait, j'ai eu de la chance depuis le début, j'ai eu beaucoup. Beaucoup de choses, beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui m'ont suivi. Bon, peut-être qu'il en prenait un peu ombrage, je ne sais pas. On n'en a jamais parlé.
C'est peut-être à cause de tous ces académiciens qui vous ont empêché d'écrire, que vous avez fait tant de choses avant, comédienne, on l'a vu, mais aussi productrice de télévision, plus tard de cinéma,
oui.
Chanteuse.
Ah oui, non, mais j'ai fait un disque. Alors,
vous avez une journaliste, elle.
Oui, alors j'ai fait un titre avec quelqu'un qui nous était très très cher, puisque ça a été le générique de votre émission Ce soir ou jamais,
oui,
qui était Frédéric
Botton.
Donc j'ai aimé Frédéric, c'est passionnément.
C'était votre premier mari.
Ouais. Enfin bon, ça peut paraître étrange aussi, mais en fait, vous voyez, j'ai un parcours qui est atypique, qui est étrange, qui est sauvage, mais qui est le mien.
Et un parcours très parisien. Ça me fait penser à Mademoiselle de Paris, chantée par Randy Williams. On va l'écouter. C'est un peu vous, Nathalie Rince.
Oh là là, pas vraiment, je crois, en fait.
When you stroll down the rue de la paix. On a beautiful morning in May, it is heaven on earth, you'll agree, just to meet Mademoiselle de Paris. She has got style, famous in town, even her smile goes with her gown. Bonjour, mademoiselle, blonde et petite, come to a bed. That means how sweet. She's so chic and adorable, no one thinks it's deplorable when men all turn around just to see Mademoiselle de Paris. You bet girls get a kick from her, learn each cute little trick from her, in their hearts they would all like to be Mademoiselle de Paris. Light of heart, fancy free, she's the spirit of spring in Paris. She's got clothes with a zing to 'em. She's got curves and they cling to 'em. Sheer silk stockings and shoes number three, Mademoiselle de Paris.
When she frowns, there is disdain in it. When she smiles, there is champagne in it. She breaks hearts and collects the debris. Mademoiselle de Paris, si jolie, mon Paris. Pour moi, c'est tout l'amour de ma vie. Scooby-Doo, Scooby-Dee. Ooh, ah, ooh, Mademoiselle de Paris. Ooh, la, la, ah, oui, oui. Formidable, Mademoiselle de Paris.
C'était Mademoiselle de Paris, chantée par Andy Williams. Nathalie Reims trouve que ça lui ressemble pas du tout.
Non, parce qu'il y a un côté germano-pratin, un côté chic. Moi, je suis pas, je sais pas. Je me vis comme un ours, donc peut-être Mademoiselle des ours, mais Mademoiselle de Paris, c'est un peu prétentieux en plus.
C'est très années 60.
De 11h à 12h30, le dimanche, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï. Frédéric qui a décidé aujourd'hui de découvrir les endroits parisiens qui comptent dans la vie de l'écrivaine et productrice Nathalie Reims, qui vient tout juste de sortir son 20e livre, beaucoup plus personnel puisqu'il parle de la maladie qui la touche depuis plusieurs années.
Nous roulons maintenant sur les quais. Nous sommes en voiture avec Nathalie Reims et l'hôtel de la Bonnet qui se dresse à notre gauche. Dans votre nouveau livre, Les Reins et les Cœurs, vous racontez donc votre insuffisance rénale, celle qui vous a frappé voilà 2 ans, et vous mettez à rêver qu'on vous greffe un rein, bien entendu, comme tous ceux qui tout à coup dépendent de la dialyse.
Oui, mais ça va venir avec le temps, parce que au départ, il y a déjà cette épreuve de la traversée du Styx. Comme j'ai quand même une espèce de préséance de la mort qui est quotidienne pendant presque 2 mois. Et je crois que l'équipe qui va m'accompagner lutte aussi et n'y croit pas vraiment parce que j'ai tellement attendu, que la situation est tellement dégradée. Et quand je vais commencer un tout petit...
Pardon de vous interrompre, Nathalie Reims, mais quand on a, comme vous, si souvent parlé de la mort, de la disparition, est-ce que ça vous avait préparé à l'affronter?
Oui, je pense. Je pense que inconsciemment, peut-être, comme il y a beaucoup de signes dans ce récit qui vont ressurgir de l'inconscient, on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense que j'y étais préparée, que je n'ai pas du tout eu peur, jamais. J'ai souffert, j'ai été très seule, j'ai eu très très froid, j'ai ressenti des choses d'une dureté qui sont difficiles à transmettre. Je crois qu'elles sont transmises dans l'écriture, mais je n'ai pas eu peur parce que j'avais toujours cette espèce de conscience, même dans les moments les plus absents, que tout ça pouvait s'arrêter sur un souffle et qu'au fond, ça n'avait pas vraiment d'importance. Alors peut-être que les gens qui m'ont entourée, qui sont les héros aussi de ces reins et ces cœurs, m'ont tenu d'une certaine façon inconsciemment par leur présence et par leur amour. Mais j'ai jamais vraiment abandonné, mais je ne sais pas, je flottais comme ça entre deux mondes et j'avais tellement et j'ai tellement écrit sur la disparition et sur la mort que sans doute non. Je l'avais sans doute apprivoisé, même si c'est difficile de dire qu'on apprivoise la mort. Quand j'ai commencé à sortir un peu de là et à sortir de ce qu'on appelle la dialyse en continu, c'est-à-dire l'hémofiltration, et que j'ai commencé à faire en effet ces séances de dialyse 1 jour sur 2 qui sont extrêmement difficiles, où, comme je dis dans le récit, on a vraiment rendez-vous avec un vampire, d'où évidemment les débuts du transhumanisme. On a cette machine qui s'accroche à votre bras ou à votre cou, ce qui en l'occurrence était mon cas. J'avais un très gros cathéter comme ça à la base du cou.
C'est douloureux ?
C'est très douloureux et c'est aussi très précaire dans la mesure où mon bras était trop maigre pour faire une fistule et de toute façon je n'en voulais pas. Et pour moi, cette fistule était le symbole de ma mère, de ma grand-mère, de sa sœur et le fait que j'allais mourir dans cette machine qui était quand même une idée très omniprésente car la dialyse était pour moi, vu mon état, extrêmement difficile à supporter. J'avais l'impression en effet d'être dans les bras d'un espèce de Dracula ou de Nosferatu qui à la fois me maintenait en vie et en même temps me tuait puisque j'ai mis des mois à pouvoir remarcher, à pouvoir ne serait-ce que monter un peu les escaliers. Enfin.
Et c'est là où justement intervient l'aspect miraculeux. Et c'est là où ce récit ressemble à un roman de Nathalie Reims. C'est que, vous le rappelez, le rein, c'est le seul organe qu'on peut donner de son vivant. Voilà. Et normalement, au départ, c'était réservé à la famille.
Oui.
Aujourd'hui, on peut le demander à un proche, du moins qu'on peut prouver qu'on le connaît depuis 2 ans.
Voilà, qu'on le connaît depuis 2 ans et que le lien est très fort et qu'il y a des gens qui témoignent. Ce même donneur, lui, va être astreint à un comité d'éthique.
Pour décourager, évidemment, la marchandisation des organes.
Et ça, c'est extraordinaire. On n'est pas dans certains pays où je sais qu'on peut acheter des reins. Mais donc, il se trouve que dans tout ce parcours, il y a bientôt 10 ans, je suis dans un deuil, à quelque chose d'extrêmement difficile à surmonter. Je perds quelqu'un que j'ai aimé profondément, passionnellement pendant 10 ans.
On peut dire qui c'est, tout le monde le connaît,
oui,
c'était Claude Berry.
Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Claude, voilà, au moment de sa disparition. Et donc, on va dire qu'une des personnes qui est très, très importante dans ma vie depuis très longtemps, bien des années, et qui chante et qui est donc Mylène.
Mylène Farmer.
Voilà. Moi, je suis vraiment un peu au fond du trou. Et elle part en tournée, elle m'emmène avec elle. Et puis, il y a un moment dans le spectacle où elle chante une chanson qui s'appelle Point de suture et descend à un espèce d'énorme écran géant sur lequel il y a un danseur et une danseuse nue qui dansent absolument une chorégraphie somptueuse sur cette chanson. Et on est en voiture, Mylène et moi. Et voilà, et elle me secoue, elle me dit, il y a bien quelqu'un qui te plaît. Et je résiste, d'ailleurs, personne ne me plaît. Et puis au bout de cette conversation, un peu. Je ne sais pas, comme deux adolescentes, mais d'une certaine façon. Je lui dis, tu sais, le garçon qui danse, là, sur l'écran, voilà, donc on va se rencontrer.
Lui, vous plaît.
Voilà, mais je ne sais pas, oui, il me plaisait. Donc, on se rencontre sur Point de suture. Alors après, évidemment, tout est très raconté dans Les reins et les cœurs. Ça va m'amener jusqu'à...
C'est Mylène Farmer qui vous le présente, donc.
Enfin, elle ne me le présente pas, parce qu'elle ne le connaît pas non plus.
Elle ne savait pas qui dansait sur l'écran.
Enfin, elle savait,
ce qui est assez logique.
Elle savait, mais elle ne savait pas qui c'était. Donc, il y a eu la recherche. Et puis, ensuite, donc, il y a ce symbole du point de suture. Et puis, il y a ensuite un roman sur un ange qui arrive au pays des cathares que j'écris 5 ans plus tard, qui s'appelle « Car ceci est mon sang », où il est sur la couverture. Voilà, le récit raconte comment, de cette rencontre, ça va devenir un ange réel, un ange gardien réel. Et que...
Mais vous dites dans Les reins et les cœurs qu'au fond, vous avez une relation quasiment gémellaire. Et quand il va se proposer de vous donner un rein, ce qui est un merveilleux cadeau, tout le monde n'a pas ce courage, on va s'apercevoir que votre degré de compatibilité est exceptionnnel, comme si vous étiez frère et sœur.
Voilà.
Il y a vraiment, là aussi, il y a quelque chose qui ressemble à un roman de Nathalie Reims.
Absolument. Et c'était le professeur Legendre, que nous allons voir un peu plus tard dans la journée à l'hôpital Necker, va me dire ça, ou va le dire au néphrologue qui s'occupe de moi à ce moment-là. Et parce qu'il y a des tests, enfin, tout ce parcours est absolument raconté. C'est aussi une façon de dire aux gens qui sont en attente d'organes que, ben oui, que c'est possible, qu'on peut sortir de la dialyse comme on peut sortir de l'enfer. Alors, c'est pas pour autant qu'on est serein et que tout est facile, mais en tout cas, on sort d'un état de dépendance comme
ça. Il y a toujours quelque chose de miraculeux, parce que la compatibilité n'est pas toujours possible.
Non.
Les reins qu'on peut léguer à la science ne sont pas toujours,
on est compatible.
Comme on dit, de bonne qualité.
Voilà, on est compatible.
Il y a des reins qu'on ne peut pas greffer.
Il y a beaucoup de configurations, même si aujourd'hui, avec les anti-rejets, qui sont des médicaments qui sont difficiles et exigeants, il y a eu beaucoup de progrès et que les choses sont de plus en plus aisées. Mais c'est surtout, en fait, la difficulté qui va être la mienne. Tout ce parcours de culpabilité et au début d'impossibilité d'accepter ce don, parce qu'on est au-delà du don, il faudrait un autre mot. C'est faire rentrer, et c'est tellement important de le dire, lui aujourd'hui va extrêmement bien. Je pense que c'est tout à fait faisable, mais c'est accepter que quelqu'un en pleine santé a descendre dans un bloc opératoire et se fasse opérer alors qu'il n'est pas malade.
Et se fasse retirer un organe.
Un organe aussi vital que le rein.
bien qu'on puisse vivre évidemment avec un seul rein.
Oui.
Mais c'est quand même toujours un sacrifice.
Oui, c'est un sacrifice et c'est un acte d'amour comme il n'en existe pas, je crois.
Nous sommes arrivés à la librairie Gallimard. Et ben, on va descendre et on se retrouve juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Nathalie Reims. Frédéric Taddeï.
La voiture nous a déposé juste devant la librairie Gallimard, boulevard Raspail, avec Nathalie Reims, une librairie qui existe depuis 1919, c'est indiqué au-dessus de la porte. Et dans la vitrine, il y a beaucoup de livres Gallimard, mais il y a aussi le vôtre, Les Reins et les Cœurs, votre 20e livre qui vient de paraître aux éditions Léo Cher. Il est dans la vitrine de la librairie Gallimard. On va entrer ?
Oui, on va entrer.
Alors, c'est une librairie qui avait été créée par Gaston Gallimard à l'époque.
Oui.
Vous y avez fait une signature récemment ?
Oui, j'ai fait une signature il y a, je ne sais pas, une dizaine de jours, je crois, avec la merveilleuse personne qui...
Anne Ghisoli,
voilà,
qui est juste devant nous. Bonjour,
vous.
Anne.
Bonjour.
C'est vous qui dirigez cette institution, j'allais dire.
C'est bien moi, c'est bien moi.
Est-ce qu'il est vrai, on raconte qu'au départ, quand ça avait été créé par Gaston Gallimard, il y avait un coin bibliothèque,
oui.
On pouvait emprunter des livres, ce qui est quand même dingue.
C'est tout à fait ce que l'on m'a raconté. Il y avait encore dans l'ancienne version, avant les travaux de rénovation de cette librairie, des petits casiers où, paraît-il, les gens venaient déposer les livres empruntés. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, ça c'est bibliothèque.
Qui veut vendre ses livres, c'est quand même formidable. Vous accepteriez aujourd'hui ?
Ah, mais absolument. D'ailleurs, on fait toujours un envoi aux bibliothèques. C'est tellement important, de toute façon. Si j'ai voulu vraiment, dans ma promenade, venir ici d'abord, parce que c'est une librairie qui est très symbolique pour moi et pour ma sœur Bettina aussi, que nous aimons particulièrement cet endroit et que vraiment c'est un hommage, c'est bête à dire, hein, ils n'ont pas besoin de moi, mais les libraires en règle générale pour moi aujourd'hui sont c'est les chevaliers de notre métier, c'est-à-dire que je ne vois pas tellement comment, bien sûr qu'il y a les médias, mais en fait c'est un travail de fond qui est un travail toute l'année, c'est des héros face à des espèces de, comme ça, de grosses machines qui se mettent à vendre des livres comme on vend un peu des paquets de lessive. Et là, il y a vraiment non seulement une passion, mais je pense que c'est des passeurs de livres, tout simplement. Et chacun a ses auteurs, chacun... Enfin, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, je prie pour que ça dure, mais quelquefois, j'ai peur. Il y a encore des librairies, mon Dieu, mais c'est un miracle.
Europe 1, en balade avec Nathalie Reims. Frédéric Taddeï.
Anne, c'est vous qui rédigez les petites notules écrites à la main sur un certain nombre de livres.
Ce sont les libraires de toute l'équipe, voilà, selon les goûts, selon l'inspiration.
Et quand on n'est pas d'accord, par exemple, est-ce que chacun peut mettre...
Alors ça arrive, mais non, quand on dit non, on est toujours...
Toujours positif.
Oui, ce qu'a dit Nathalie Reims, c'est important, elle employait le mot de passeur. Et franchement, un libraire, voilà, c'est l'important, c'est de passer les textes alors qu'ils nous ont plu. Ouais. Après, l'important d'une équipe, c'est qu'on va avoir des goûts un peu différents. C'est aussi pour le public, c'est aussi important. Et puis, effectivement, on est là, ce qu'on apporte en plus du livre qui est important, c'est aussi l'humain, c'est l'échange. Ce que n'apporte pas Internet, par exemple.
Il faut dire aussi que dans la librairie Gallimard, aujourd'hui, on ne trouve pas que du Gallimard.
Hein. Non. On travaille comme une librairie classique avec tous les éditeurs, bien sûr.
Et peut-être pour pas parler de moi toute la journée, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette rentrée ? C'est important, par exemple. C'est quoi votre regard sur cette rentrée ? Comment ça se passe derrière cette...
Non, ça se passe bien parce que effectivement, ce qui est bien avec une rentrée littéraire, on nous dit chaque fois il y a beaucoup de livres, ouais. Mais surtout il y a beaucoup de livres à découvrir, ouais. Des premiers romans, ça c'est important, ouais. Des premiers romanciers, enfin c'est vraiment important. Puis la joie de lire, la joie de découvrir, voilà, même des romanciers qu'on n'avait pas eu le temps de lire avant, et la joie de partager. Alors il y a beaucoup de choses, évidemment on n'a pas tout lu, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans cette rentrée.
Quelques romans.
Mais quelques romans. Alors, il y a un roman, moi, dont on parle pas assez en ce moment. C'est celui de Jean-François Samelong, Un soleil en exil. Mmh. Il y avait déjà eu, il y a quelques mois, chez Belfond, un texte de Ariane Bois sur à peu près le même sujet. c'est l'histoire de ces enfants réunionnais qu'on a quasiment déportés de La Réunion pour venir repeupler les campagnes françaises, la Creuse et autres.
Et qu'on a enlevé à leurs parents.
Qu'on a enlevé à leurs parents. Ce n'était pas des orphelins. Hein. C'était, on leur a enlevé à des parents. Et de 1960-61 à 1984, hein, quand même. Ça a duré, mais longtemps. Et non seulement le sujet est fort, mais on sait bien qu'un sujet ne suffit pas à faire un roman. Ça, on sait bien. Mais ce texte est vraiment très bien écrit.
C'est votre coup de cœur.
À moi, c'est vraiment, en tout cas, un de mes coups de cœur. C'est vraiment un très beau roman. Hein. C'est Continent noir chez Gallimard et j'ai trouvé ça très bien. Il y a le titre de Amigorena, le ghetto intérieur.
Le ghetto intérieur.
Le très beau premier roman de Anne Poli aussi.
Qui
est un récit. Tout à fait. Puis évidemment, ce soir, on le reçoit, il vous succède. C'est le très beau texte, là aussi, c'est un récit. Dans la très belle collection de Colette Fellous au Mercure de France, Traits et Portraits, c'est le texte de Michael Ferrier, Scrabble, là aussi, qui raconte son enfance au Tchad. Et avec malheureusement l'irruption très brutale, forcément, de la guerre, c'est superbe. Très sensuel, tout un texte en sensualité.
Merci Anne Ghiseli pour tous vos conseils. Passez une bonne journée. On va continuer notre balade. Oui. On va vers l'hôpital Necker.
Allons-y. Clôturer cette journée à l'hôpital Necker où d'autres héros, hein, ça c'est pas rien, sauvent tous les jours la vie de patients dans des situations extrêmement précaires et difficiles.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Frédéric Taddeï et la productrice et écrivaine Nathalie Reims. L'occasion de revenir sur la vie personnelle, mais aussi professionnelle, de celle qui vient de sortir son 20e livre.
Nous sommes de nouveau en voiture avec Nathalie Reims, direction l'hôpital Necker, un lieu qui a beaucoup compté pour vous, comme on va le voir. Je voudrais revenir un peu en arrière avec vous, Nathalie. Je vous ai connu entouré de Frédéric Botton, dont vous parliez tout à l'heure, de Léo Cher, qui est votre éditeur, mais qui a été aussi votre mari.
Qui est, qui
reste,
toujours.
Et qui reste d'ailleurs votre
mari. Oui, parce qu'on est...
Et votre ami,
il y avait également... On s'est marié pour... L'histoire de Léo est tellement douloureuse, son histoire familiale, que quand j'ai épousé Léo, j'ai su que... Voilà, on était sa famille et que...
Il est d'ailleurs un des personnages importants de votre dernier livre, puisqu'il est toujours là, près de vous. Et puis, il y avait Claude Berry aussi, vous l'avez dit, vous avez partagé sa vie pendant 10 ans. J'avais l'impression, en vous voyant, avec ces trois hommes qui avaient tellement compté pour vous et qui vous adoraient, j'avais l'impression d'une famille recomposée, mais recomposée autour de vous, pas autour d'un enfant, autour de vous, d'une femme.
Non, mais je pense que c'était une famille recomposée, parce que quand on aime les gens... Et qu'on les aime profondément et que cet amour est réciproque. Je ne suis pas pour la guerre. Je trouve ça atroce et détestable. Et peut-être que, au fond, j'ai fait les choses correctement de façon à ce que tout le monde s'entende bien.
Et vous avez eu la chance qu'ils se sont tous beaucoup aimés, tous les trois.
Oui, ils se sont beaucoup aimés. Ils ont travaillé ensemble puisque en fait Claude Berry a sorti. Un livre absolument extraordinaire, qui est son livre, qui s'appelle Autoportrait. Il a travaillé avec Léo comme éditeur. Et puis Frédéric Botton a fait pas mal de musique de ses films. Et tout ça, c'était extrêmement... C'était beau, c'était puissant.
Et ça a donné une chanson que j'aime beaucoup, dont vous avez écrit les paroles.
C'est ma seule chanson, voilà. J'en suis très fière.
Vous en aviez chanté, avant on l'a dit, vous aviez été pendant une courte période chanteuse. À l'époque, vous étiez mariée avec Frédéric Botton.
Voilà, mais en fait, c'est Claude Berry qui a fait notre histoire, en fait, l'histoire de notre rencontre, dans un film qui s'appelle « L'un part à l'autre reste ».
Avec Charlotte Gainsbourg.
Qui joue, en fait, mon rôle, et Daniel Auteuil qui joue... Le rôle de Claude, ça raconte nos premières années avec tout ce qu'elles ont eu de douloureux et de difficile. Et à la fin de... Frédéric avait composé la musique du film et Claude m'a demandé à la fin d'écrire une chanson.
Une chanson que chantait Charlotte Gainsbourg et qu'on va écouter tout de suite. Parole de Nathalie Reims, musique de Frédéric Botton.
Europe 1, 11h30, en balade avec Nathalie Reims.
Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, N'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi. Déchire mes lettres et reste là. Demain peut-être tu reviendras. Geste d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux en mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse quand l'un s'en va et l'autre reste. Il chagrin dès qu'il vous blesse, au lendemain de maladresse. Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras. Ils n'oublieront pas leurs promesses, ils s'écriront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste.
C'était L'un part, l'autre reste, chanté par Charlotte Gainsbourg, la chanson du film éponyme de Claude Berry, des paroles de Nathalie Reims, une musique de Frédéric Botton, une chanson qui a été reprise plus tard, quelques années plus tard par Sylvie Vartan.
Oui, qui a été reprise par Sylvie Vartan, je crois qu'elle... Elle a été pas mal reprise. Je sais pas, je trouve que... Alors là, vraiment, je trouve que c'est une très belle chanson. Voilà, je trouve que...
Moi aussi.
C'est, voilà. Et puis Charlotte à Gainsbourg, c'est la seule chanson qu'elle aura chantée en français. Et je trouve aussi que le français lui va très bien.
Avec Claude Berry, vous avez été un peu productrice de cinéma. Vous étiez à Bonne École, c'était un sacré producteur.
Bah,
vous
aviez... Un peu beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était étrange ma situation parce que... Je l'ai accompagné comme ça pendant des années et aussi pendant des années où il a rencontré beaucoup de difficultés personnelles. Il les raconte dans son livre, c'est pas à moi de les raconter. Je crois que j'en parle un peu dans Claude. Mais en même temps, j'étais dedans et dehors puisque en fait, cette société que nous avons créée, qui était Hirsch, je n'étais pas salariée par la maison de production, mais j'ai travaillé à ses côtés. Comme ça, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et que ce soit ses propres films ou les décisions qu'on pouvait prendre pour les films des autres, ça a vraiment été un fonctionnement comme ça très, très fondamental et très proche.
Ça vous a plu d'être productrice de cinéma? Vous aviez été un peu productrice de télévision.
Ça m'a plu à partir du moment où c'était lui, parce que tout me plaisait quand c'était lui, que sa force, sa folie, son désespoir et son génie, parce que c'était tout ça à la fois, m'a appris, m'a... énormément de choses. Et puis après sa disparition il y a 11 ans, tout d'un coup, enfin, c'est pas, tout était tellement vide, ça n'avait plus de sens, et je me suis concentrée sur l'écriture. Et puis on parlait tout à l'heure de la littérature, le cinéma lui aussi a beaucoup changé, Et je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a Alain Attal, il y a comme ça des gens encore très forts et courageux. Oui, mais ça devient très, très compliqué et la prise de risque est très différente. Et le cinéma a changé aussi, les gens veulent des comédies, enfin... Voilà, tout change, tout bouge.
Ça, les comédies, ça ne vous parle pas, à vous?
Il y en a de temps en temps, mais non, pas vraiment, en fait. Il y en a sûrement des non, j'en ai vu des réussis. Mais voilà, mes cinéastes aujourd'hui, c'est Clapiche, c'est Ozon, c'est l'extraordinaire film là, que j'ai vu qui était Jusqu'à la garde. Non, il y a Jeanne Herry aussi, qui a beaucoup de talent. Enfin non, il y a des jeunes metteurs en scène. Mais je trouve que généralement... le cinéma, quand il veut, comme souvent les émissions de télé aussi, s'adresser désespérément à un grand public, de temps en temps, c'est bien, ça marche, mais c'est pas la martingale non plus.
On va arriver à l'hôpital Necker, un endroit très important pour vous, comme vous allez nous le dire, Nathalie Reims. À tout de suite.
La balade de Frédéric Taddeï et Nathalie Reims touche à sa fin sur Europe 1.
Nous voilà maintenant à l'hôpital Necker, en présence de l'un des héros de votre dernier livre, Nathalie Reims, le professeur Christophe Legendre, qui est le chef du service néphrologie et transplantation à l'hôpital Necker. L'hôpital Necker où avait eu lieu d'ailleurs la première transplantation rénale en Europe. Hein. C'était le professeur Amburger et puis...
On peut même dire dans le monde.
Et Louis Michon. Oui, alors on dit qu'il y avait eu Boston avant, mais Boston, c'était entre deux jumeaux,
Boston,
je crois.
Boston, c'était des jumeaux, oui. En fait, des greffes, il y en a eu avant celle de Necker, mais celle de Necker, elle avait marché pendant 16 jours, ce qui était tout à fait extraordinaire. Et l'évolution n'était pas très différente de ce qu'on voit maintenant. Et puis, comme on ne savait pas traiter les rejets et qu'on ne savait même pas qu'il y avait des rejets, finalement, le jeune homme a fait un rejet et est décédé parce qu'il n'y avait pas de dialyse à l'époque. Mais sinon, la greffe, dans les 15 premiers jours, marchait comme ce qu'on voit à l'heure actuelle.
Professeur, il y a combien de gens qui se promènent maintenant en France ou ailleurs, d'ailleurs, comme Nathalie Reims, avec un rein que vous leur avez greffé?
Oh, il y en a à peu près 40 000 en France.
40 000
oui.
Ils ne sont pas tous passés par vous.
Ah non, Dieu soit loué. Non, il y a dans chaque ville française qui a un centre hospitalo-universitaire, il y a de la transplantation quasiment.
C'est devenu facile, simple aujourd'hui?
C'est devenu... Oui, globalement un peu plus simple, alors qu'on greffe des gens plus âgés avec des donneurs beaucoup plus âgés. Les jeunes chirurgiens sont très, très habiles. Et puis, on a quand même plus de traitements anti-rejets qu'on en avait il y a quelques années. Donc, on arrive à faire durer des reins qu'on n'aurait pas fait durer il y a 20 ou 30 ans.
Être greffé, c'est formidable, dites-vous, Nathalie Reims, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis après, il y a le traitement. Hein.
Oui, le traitement. D'abord, je suis contente de... voir Christophe Legendre, qui est en effet quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai peu vu, parce qu'en fait, il faut savoir que quand déjà on a la chance d'avoir rendez-vous avec lui, ben, il vous voit peu, il voit votre donneur, et puis il vous donne le feu vert. Bon. Donc ce feu vert ayant été donné, l'épreuve n'est pas pour autant terminée, la greffe en elle-même s'est très très bien passée. Voilà, j'ai eu un chirurgien extraordinaire qui est le professeur Tim Sitt. Mais le fait de vivre sans dialyse, c'est un miracle. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que cette espèce de dépendance avec la machine, il y a des gens qui la supportent plus ou moins bien, mais moi, mon état n'était pas terrible. Donc, j'avais beaucoup de mal à la supporter. La greffe, aujourd'hui, en effet, c'est un miracle. Mais les traitements, alors je pense que c'est très, très différent des uns aux autres. C'est pas... Voilà, il y a des effets secondaires, enfin voilà, et puis surtout, c'est très observant, il faut y penser. On vit greffé, c'est-à-dire que de toute façon, on entre dans le monde des greffés, et c'est toutes ces questions-là qui m'ont intéressée, mais on est surtout libre. On retrouve une forme de liberté, même s'il y a toujours une dépendance, mais les médicaments, c'est mieux que le reste.
Balade avec Nathalie Reims. Frédéric Taddeï.
Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de donneurs, professeur.
Il n'y en a pas assez. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas assez. Il y a à peu près 30% de gens chez qui ça ne se fait pas. Mais on peut voir les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans 70% des cas, ça aboutit.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Vous-même, est-ce que vous donnerez vos organes?
Ah, sans aucun problème. Le problème, c'est quand on n'en a pas parlé avant et que ça survient au moment d'un décès, c'est évidemment le plus mauvais moment pour en parler à la famille et que la famille, si elle n'a pas parlé de ça avec le défunt, elle ne sait pas quoi dire. Et alors, il y en a, c'est plus facile de dire non parfois à ce moment-là, et quitte à regretter, que de dire oui et de prendre une responsabilité importante. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour les familles de donner leur avis à ce moment-là. Et en fait, il faut bien que quelqu'un décide. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on demande à la famille de témoigner sur ce que pensait le défunt. Et beaucoup de défunts, on n'en avait pas parlé. Donc, ce témoignage, au bout d'un moment, c'est assez vite une opinion. Et bon, on respecte l'opinion de la famille. On ne peut pas passer en force et dire non, ce que vous avez dit n'est pas important, on va quand même l'opérer. Donc, ça ne se passe pas comme ça.
Est-ce que ce serait important de dire aussi que de parler des donneurs vivants et de leur dire que c'est possible ? Et qu'on peut aller très bien après. Je crois que c'est un message qui est important aussi.
On peut donner son rein de son vivant et ne s'en porter pas plus mal.
S'en porter bien même, parce que sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté, puisqu'on fait ça depuis en gros 1959. Donc s'il y avait eu beaucoup de pépins, je pense qu'on aurait arrêté. Mais ce n'est pas non plus complètement anodin. Ça, on commence à le savoir maintenant. Donc il faut aussi être prudent, et très prudent même, avec la sélection de ces donneurs.
Vous voulez dire que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne peut pas donner son rein, et encore moins n'importe qui, parce qu'on n'est pas forcément compatible.
Loin de là, puisque quand on explore 100 donneurs, il y en a 60 qui sont récusés. Donc vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Finalement, c'est une activité qui fait qu'on travaille 60% dans 60% des cas pour rien. Alors récusés, soit parce qu'ils n'ont pas assez de fonction rénale, récusés parce qu'ils n'ont pas le bon groupe sanguin, parce qu'ils ont développé des anticorps contre le futur receveur, ou parce qu'on découvre lors des examens qu'on fait un cancer, une hypertension, un diabète. Quand on fait des examens, on trouve toujours quelque chose, ou souvent quelque chose. Donc ça peut être des contre-indications au don.
Cet hôpital Necker dans lequel nous nous trouvons, on l'a dit, c'est là qu'a eu lieu la première greffe d'organes en Europe. Mais c'est aussi là que l'AENEC a inventé le stéthoscope. C'est là qu'on a greffé pour la première fois de la moelle osseuse. C'était la première thérapie génique. C'est un sacré endroit. Hein.
C'est un endroit un peu original pour différentes raisons. D'abord, la coexistence d'adultes et d'enfants.
C'est l'hôpital Necker des enfants malades.
Voilà. Alors nous, on a tendance à oublier les enfants, mais c'est vrai que ça représente à peu près 70% de l'activité de l'hôpital. Et puis, c'est un hôpital qui est très axé sur l'équilibre soins-recherche. Et ça, c'est pas vrai dans tous les hôpitaux français ou même de l'assistance publique. C'est-à-dire que pratiquement tout ce qu'on fait est toujours orienté vers un but qui a un but d'essayer d'évaluer ce qu'on fait. Et donc de faire de la recherche clinique, et ça s'y prête particulièrement bien. Il y a plusieurs unités ici, c'est le lieu où il y a le plus d'unités de recherche en France, donc c'est facile de s'organiser pour faire de la recherche.
Nathalie Reims, votre vie aurait dû s'arrêter normalement il y a 2 ans, c'est ici qu'elle a recommencé ?
Oui, elle a recommencé, je ne sais pas, elle a continué, c'est une vie en plus, et... Ce qui a été formidable pour moi, même si la reconstruction physique est lente, c'est d'avoir cette énergie psychique pour écrire ce 20e livre. Et maintenant, bon, je prends chaque jour comme une vie et je verrai bien où le destin me mène.
Merci Nathalie Reims de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci professeur Legendre de nous avoir reçus ici aujourd'hui à l'hôpital Necker. Je rappelle que votre livre Les reins et les cœurs, votre 20e livre, vient de paraître aux éditions Léo Cher. Je remercie également la librairie Gallimard. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.